D'abord, bonsoir et merci d'avoir bravé le mauvais temps et la pluie pour venir à cette conférence chez Mola. Donc pour vous présenter, si vous ne le connaissez pas encore, Bordeaux Patrimoine Mondial, une belle bestiole qui fait quand même bien son poids. Très bel ouvrage donc, dont les deux auteurs sont là, Chantal Calais et Thierry Jean Monod, tous les deux architectes à l'école d'architecture et du paysage de Bordeaux. Également à la table, Marc Saboya. Donc, je vais parler de ce livre qui est rendre peut-être d'abord hommage à l'éditeur Geste Édition, qui est une maison d'édition installée près de Niort. On va en parler avec les deux auteurs. Ce que je trouve, c'est quand même, dans cette époque, lancer un ouvrage comme ça qui fait plus de 700 pages, je trouve que c'est un beau risque éditorial. D'autant plus qu'il faut que ce livre marche, parce qu'il y en a deux autres pareils qui attendent. Et donc, voilà, ça serait dommage qu'on ne les lise pas un jour. Donc, évidemment, la période de Noël approche. Donc, vous m'avez compris. Je pense que dans les sapins du Père de Noël, ça sera un très beau cadeau. Chantal Calais et Thierry Jean Monod, donc bonsoir. Peut-être pour commencer, vous pourriez nous dire comment est né cet ouvrage, enfin cet ouvrage et puis les deux autres qui devraient suivre. Au départ, c'était un seul ouvrage, mais qui alors atteignait des mensurations hors normes.
Et effectivement, au départ, notre éditeur, Romain Audin, qui est là-bas au fond, sous le sapin de Noël, justement, nous avait demandé un guide sur Bordeaux. Et effectivement, bon, ça fait quelques années que nous sommes enseignants à l'école d'architecture et de paysage. Et donc, nous travaillons depuis longtemps sur la connaissance de Bordeaux. Et donc, le petit guide que Romain nous avait commandé a commencé à grossir pour atteindre, effectivement, une somme assez considérable de signes. Et lorsqu'on lui a présenté la chose...
2 millions, je crois. Disons le chiffre, n'ayons pas peur.
Un peu plus de 2 millions, oui. Voilà. Plutôt okay. Près de 2,5 millions. Et donc, il nous a dit, c'est pas possible, ça va faire un livre de 20 cm, de 30 cm d'épaisseur. Donc, on le coupe en trois. Nous, on était très contents qu'ils nous disent de le couper en trois et non pas de le réduire de trois. Donc, on le remercie encore pour ce travail-là. Et effectivement, c'est le travail de 20 ans, un peu plus de 20 ans, même, hein, je crois, qu'on travaille à l'école d'architecture et de paysage. Et puis, on l'a fait avec nos connaissances, mais aussi, moi, je tiens effectivement à rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé sur Bordeaux avant, et notamment Marc et Marc Saboya et Robert Coustet, sans lesquels ça aurait pris encore plus de temps de notre part pour faire un livre pareil. C'est-à-dire qu'effectivement...
Robert Coustet qui est dans la salle
aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Et effectivement, on s'est appuyé sur nos connaissances, sur les travaux des historiens qui ont travaillé avant nous, sur les travaux de la Société archéologique, sur la Revue historique de Bordeaux, pour essayer d'être le plus... non pas exhaustif, parce qu'on n'est jamais exhaustif, on pourrait encore en faire trois fois autant.
Ah bon, vous l'avez dit à votre éditeur, ça, ou,
non, pas encore.
Ou c'est un scoop ce soir?
Mais effectivement, donc, essayer, et notamment vis-à-vis de nos étudiants, puisqu'on est quand même enseignant au départ, d'essayer de mettre à leur disposition, une histoire de Bordeaux qui soit la plus complète possible. Et on est arrivé effectivement à ces trois volumes. Celui-ci, donc, qui parle plus de la fabrication de la ville, donc de l'histoire de la ville elle-même. Un second qui portera plus sur habiter dans le patrimoine, donc comment on habite à Bordeaux. Et puis un troisième sur la monumentalité de la ville, sur les monuments de la ville, mais la ville aussi comme monument, qui sont déjà écrits, donc il n'y a plus qu'à les faire.
Alors, j'ai pas envie de dire, bon, évidemment, sous forme de boutade, ça n'est pas le guide qu'attendait l'éditeur. Le guide qui est un ouvrage que, quand on veut visiter une ville, on a dans la poche. Et puis, voilà, on est devant le bâtiment, le monument, ou la rue, enfin, la place qu'on veut connaître, qu'on découvre. Et on ouvre son guide et on lit en même temps. Donc là, c'est évidemment un peu difficile à emporter quand on se balade. Mais en même temps... ça reste aussi un guide, parce que il faut le dire, c'est vrai que l'ouvrage peut un peu faire peur par sa taille. Mais il se lit assez facilement. Et puis, on n'est pas obligé de le lire en linéaire. On peut aller d'un chapitre à l'autre. J'allais dire, on peut faire du grignotage, comme on dit, d'un chapitre à un autre, même si, évidemment, le mieux, c'est de le lire dans la continuité. Mais c'est un peu comme un guide, justement, où on peut passer d'un chapitre à un autre, d'un lieu à un autre. Vous avez quand même conçu ce livre dans cet esprit.
On l'a conçu en trois grandes parties. D'abord, l'histoire de la forme urbaine elle-même. Ensuite, on a fait un chapitre sur la ville et l'eau, c'est-à-dire de montrer le rapport au fleuve, mais aussi le rapport aux différentes rivières, aux terrains marécageux, comment est-ce qu'on a traité la question à Bordeaux. Et on a fait un troisième chapitre sur les jardins. Alors, sur les jardins publics, mais aussi sur les jardins partagés, les petits jardins, les jardins de quartier, etc., qui prennent aujourd'hui encore plus d'importance que dans les périodes précédentes. Donc, on a essayé à chaque fois de mettre en perspective, à travers le temps, ces trois approches. Et puis, on a écrit le livre à l'attention d'un public très large. D'abord, nos étudiants, puisque, évidemment, c'est notre métier. Donc, on essaye de s'exprimer de façon claire et accessible à tous et à un grand public, à un public large, de façon à transmettre une culture architecturale et urbaine qui est très peu diffusée dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans le grand public non plus, où on a plus souvent accès, par exemple, à l'histoire de la peinture ou à l'histoire de la sculpture qu'à celle de l'architecture et de la ville. Donc on a voulu donner accès à ces savoirs, qui sont des savoirs de spécialistes, mais donner accès à tous à cette culture qu'on trouve très importante, d'autant plus aujourd'hui qu'on demande à la population de participer de plus en plus aux nouveaux projets, et que s'inscrire dans une histoire, c'est très important, et de comprendre comment la ville se fabrique, c'est très important aussi, de façon à pouvoir contribuer, quand on est un habitant, un citoyen, à l'évolution de la ville et au futur de la ville qu'on habite aujourd'hui.
Merci. On va revenir un peu donc sur le livre, son contenu. Peut-être, Marc Saboya, très simplement, expliquez-nous pourquoi vous avez accepté de préfacer ce livre.
Je l'ai accepté parce que d'abord, Thierry et Chantal sont des amis. J'ai même été le professeur de Chantal. Donc, il n'y avait aucune raison que je n'accepte pas. Parce que, bon, quand j'ai vu ce volume arriver, je me suis dit mais qu'ils avaient eu une chance extraordinaire. Une chance extraordinaire de travailler sur le temps, puisqu'il s'agit d'un livre sur le temps, c'est-à-dire de la fondation de Bordeaux à nos jours, et qu'en plus on leur a donné le temps de le faire. C'est-à-dire que ils n'ont pas été limités par des exigences de quantité et d'iconographie, ce qu'en général ne retrouve pratiquement aucun auteur de ce type. Et cette conjonction qui est parfaite, à mon avis, qui convient parfaitement aux propos, m'a donné envie, effectivement, de faire une préface, elle, extrêmement courte, mais qui porte aussi sur le temps, c'est-à-dire sur le temps qui passe dans la ville, sur les traces de ce temps, et sur la permanence de ce passé dans le présent. C'est exactement le propos du livre de Thierry et de Chantal. Peut-être que j'en dirai deux mots après, mais je préfère les laisser parler de ça. D'accord. Et moi, je dirai deux mots sur ce que je pense du temps plus tard.
D'accord. Justement, on a le temps, donc on va pouvoir... Alors, évidemment, le livre s'appelle Bordeaux patrimoine mondial, donc il est fait à l'occasion, évidemment, du fait que Bordeaux soit devenu patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, toute bête si j'ose dire, est-ce que, à vos yeux, Bordeaux est une ville patrimoniale, au sens où on l'entend, c'est une ville vraiment qui mérite cette place au sein du patrimoine de l'UNESCO ?
Oui, de notre point de vue, oui. C'est une ville qui a interprété tous les mouvements architecturaux et urbains à sa façon, et d'une façon qui se traduit dans l'espace, avec des paysages urbains qui sont exceptionnels, ne serait-ce que par l'usage unique de la pierre. Alors, On tient quand même à dire que Bordeaux n'est pas exceptionnel dans ses processus d'évolution, dans les grands mouvements urbains qui ont touché la fabrication de cette ville, aux actions des embellissements du 18e, à la fabrication de la ville par lotissement, etc., mais qu'elle a interprété à une manière, d'une manière singulière tous ces grands mouvements au cours de l'histoire.
C'est-à-dire que la chance de Bordeaux, peut-être par rapport à d'autres grandes villes de France, c'est qu'elle a conservé une partie de chaque période de son histoire. Il y a une trace médiévale, il y a une trace 17e, une trace 18e, évidemment, non, importante, 19e, 20e.
Non, parce qu'il y a très peu de traces médiévales, mais c'est ce qui fait sa singularité aussi, c'est qu'on a gardé justement les tracés des rues médiévales, mais que l'architecture a été renouvelée. Donc c'est un peu ça qu'on essaye de montrer aussi, c'est que l'architecture participe des paysages de la ville, mais que c'est l'espace public lui-même qui est permanent, hein, qui reste et qui est le fil conducteur de l'évolution de la ville à travers l'histoire. Parce que toutes les rues médiévales de Bordeaux sont bordées d'immeubles du XVIIe au XIXe siècle, et surtout du XIXe siècle, aux grandes dames de Victor Hugo, d'ailleurs, qui regrettait beaucoup ces transformations.
D'accord. Mais en même temps, je veux dire, pour qu'une ville évolue, on est obligé, alors moins maintenant parce qu'effectivement le droit, la population a évolué, mais une ville se construit sur la destruction de son passé.
Tout à fait, mais sur la destruction de l'architecture plus souvent que sur la destruction des espaces publics. Et ça, l'histoire le prouve dans toutes les villes, Bordeaux n'est pas une exception, mais à chaque fois on s'inscrit dans une filiation à travers les espaces publics notamment, qui disparaissent extrêmement rarement. Hein, qui sont réinterprétés, réaménagés. Dans les années 60, on les a laissés envahir par la voiture, par exemple. Aujourd'hui, au contraire, on les rend aux promeneurs. Mais ces espaces publics sont les mêmes. Ils sont déterminés de la même façon. Ils occupent la même place.
Thierry Jean Monod, vous vouliez...
Moi, j'aime bien l'expression de Corajou qui dit si on intervient dans une conversation et qu'on n'a pas entendu ce qui se disait avant, il y a de fortes chances pour qu'on dise des bêtises ou pour qu'on ne soit pas en harmonie avec la conversation. Et c'était un peu le sens qu'on voulait donner à cet ouvrage, c'est-à-dire que notre futur, il se construit sur la connaissance de notre passé, sur la connaissance de la géographie, sur la connaissance de l'histoire de la ville. Et que... il ne faut pas, dans ces perspectives-là, être fétichiste du passé. Le passé, c'est aussi, et le patrimoine, c'est aussi une source qui va nous permettre aussi d'inventer des formes nouvelles. Alors c'est vrai que c'est plus difficile, parce qu'on a des techniques aujourd'hui qui sont parfois un petit peu délicates à manier avec l'architecture traditionnelle comme celle de Bordeaux, mais je crois qu'effectivement... ville patrimoniale sans aucun souci, mais ça ne veut pas dire ville figée dans son histoire. Elle doit continuer à progresser et à inventer avec justement ce regard un peu vigilant sur qu'est-ce qui s'est dit avant, qu'est-ce que nos prédécesseurs ont voulu dire dans cette ville, de manière à ce qu'on s'inscrive correctement dans la conversation que la ville entretient depuis quelques siècles avec son territoire et avec son fleuve, notamment.
Est-ce que vous diriez que les Bordelais, qu'ils soient élus ou, simples Bordelais, finalement ont pris conscience du patrimoine bordelais ces dernières années ? C'est quelque chose qui a ressurgi ? Ou que c'est quelque chose qui était... Parce qu'on parlait, par exemple, vous parliez des voitures. Je veux dire, la cathédrale, pendant des années, a été encerclée par un flot de voitures, ce qui fait que, je veux dire, elle était pas masquée, mais enfin, elle était perturbée par ce flot. Tandis que maintenant, évidemment, elle est totalement accessible aux piétons, et on la redécouvre encore plus. Donc est-ce que finalement, voilà, on a redécouvert ce patrimoine ces dernières années par des politiques publiques, ou est-ce que c'était quelque chose qui était plus ou moins dissimulé ?
J'ai l'impression, comme ça, hein, je n'ai pas fait d'enquête approfondie, mais que les Bordelais, maintenant, ont conscience de la valeur de leur patrimoine. On a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, une petite affiche qu'on aimait bien, on l'avait prise en photo sur les poubelles. Bordeaux, patrimoine mondial de l'UNESCO, je rentre ma poubelle. J'avais aimé ce petit collant que la ville mettait pour que les gens apprennent à rentrer leur bac à ordures. Et parce qu'il y avait là une confrontation violente entre la trivialité de la poubelle et le patrimoine mondial. Mais Je crois que la démarche a été jugée maladroite, et elle l'était peut-être un peu dans l'expression, mais malgré tout, c'était vraiment ça, essayer de faire prendre conscience à tous les Bordelais de la valeur de leur patrimoine. Et je crois qu'aujourd'hui, ça commence à bien avancer. Alors c'est sûr que quand ils déposent un permis de construire et qu'on les embête parce que la pierre, elle est pas comme... Ils sont un peu moins contents. Mais je crois qu'il y a une fierté quand même aujourd'hui de la part des habitants pour la ville. Et là,
est-ce qu'on pourrait dire, prolonger cette question, sur redécouverte assez récente du patrimoine, que finalement, le plus beau patrimoine de Bordeaux, c'est la Garonne, et que finalement, pendant des années, elle est restée inaccessible, et que maintenant, on y a accès, et que là, pour le coup, on se rend compte que c'est une chance pour Bordeaux de vivre près d'un fleuve, que Bordeaux s'est construite... près de la Garonne, mais que pendant des années, la Garonne était interdite.
C'est vrai que l'appropriation des habitants des quais, dès qu'on les a autorisés à y accéder, ça a été spectaculaire. Et toute la démarche, les démarches successives, d'abord de Perrault, puis de Corajou, ont été complètement assimilées par la population extrêmement vite. Au grand regret peut-être de certains Bordelais qui avaient connu les activités portuaires et qui les regrettent encore aujourd'hui. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas regretter le passé, que la ville évolue, que maintenant, Bordeaux n'est plus un port en centre-ville. Mais, moi, je ne suis pas bordelaise d'origine. Hein. J'étais un peu surprise quand les Bordelais râlaient parce que les gros paquebots n'arrivaient plus en centre-ville. Et puis, en fait, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça change le paysage de la ville. À l'intérieur de la ville, on avait tout d'un coup une perspective avec un paquebot HLM, certes, mais avec un paquebot, alors que de temps en temps, on avait le fleuve et de temps en temps, la vue bouchée par le rythme de ces gros navires. Donc finalement, j'ai un peu changé d'avis sur le rapport au fleuve et le rapport au bateau, notamment. Et en se disant aussi qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir et que peut-être un jour, il y aura des paquebots qui reviendront dans la ville et qu'on en aura besoin.
Juste une parenthèse, je ne sais pas pourquoi on parle de paquebots HLM, parce qu'à mon avis, je pense que les gens qui prennent des paquebots ne vivent pas dans des HLM. Mais bon, ça, c'est juste une parenthèse.
C'est une esthétique du paquebot aujourd'hui.
Ah oui, mais il y a des HLM qui sont esthétiques maintenant. Mais bon, ça, c'est vrai que c'est une expression. Mais bon, peu importe.
C'est une expression rapide, une parenthèse.
Voilà, tout à fait. Donc vous diriez effectivement quand même que ce patrimoine, c'est le fleuve, que c'est important pour Bordeaux d'avoir eu. Puisque bon, vous êtes sur la fabrication de la ville, que Bordeaux s'est fabriqué par rapport au fleuve.
Oui, Bordeaux, c'est aussi pour ça qu'on a eu ce chapitre sur l'eau à Bordeaux, parce qu'effectivement, il y a le fleuve, mais il y a aussi toutes les rivières qui venaient se jeter dans le fleuve, qui ont servi donc de construction à la ville au travers du port sur la Devèze, puis du port sur le Peugue, etc. Les marais, la conquête des marais, comment s'installer dans les marais. Et on voit bien que les activités liées au port, elles vont dans la profondeur des tissus. Lorsque j'ai fait travailler une fois des étudiants sur une partie de Talence, eh bien, il y avait des sécheries de morue qui étaient là-bas, au fond, à Talence, du côté de la Médoquine. Les morues, elles ne venaient pas en train, elles venaient bien par bateau. Et donc, c'est véritablement tout le territoire qui est véritablement été irrigué et construit. S'il n'y avait pas le port, on serait pas Bordeaux, c'est sûr. Et que, effectivement, la possibilité qu'on a maintenant de le retrouver avec la disparition de la grille du port autonome, la conquête aussi de l'autre rive qui est importante. Pendant longtemps, les Bordelais disaient c'était la mer, la Garonne, parce qu'il n'y avait pas d'autre rive. L'autre rive, c'était l'étranger, de l'autre côté de l'eau. Aujourd'hui, on a deux rives, donc on a vraiment un fleuve dans la ville.
D'accord. Vous parliez, alors il y a une partie très importante, on va revenir un peu sur le reste, une partie très importante sur, vous en parlez, sur les jardins. Est-ce que Bordeaux est une ville verte par rapport à d'autres grandes villes? On dit que c'est une ville où il y a beaucoup d'espaces verts par habitant, plus peut-être par des jardins privatifs. Quand on regarde un plan aérien de Bordeaux, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup de taches vertes dans des quartiers résidentiels où chaque Bordelais dispose d'un petit coin de jardin. Est-ce que ça, c'est une exception en France d'avoir autant d'espaces verts individualisés
ou... À cette échelle-là, c'est une des villes où la tradition de l'habitat individuel a collé et occupe un territoire très vaste. Alors, il y a peut-être Lille, comme sur un autre modèle de maison. Il y a quelques villes comme ça du Nord, notamment, qui utilisent la maison individuelle. Mais toutes les villes en France, à cette période-là, ont eu une tradition de maison individuelle à coller, donc qui fabriquait de la vraie ville avec des rues continues, etc. Mais à Bordeaux, on en a une très grande superficie entre les cours du 18e et les boulevards du 19e siècle. Et ça donne une ville, moi, que j'appelle les éco-quartiers du 19e siècle, puisque sous de nombreux angles, elles répondent à beaucoup de critères qui sont aujourd'hui exigés, et notamment ce pourcentage d'espaces verts qui est de 30 à 40% dans ces quartiers de maisons, ce qui est énorme. Et qui n'est pas visible de la rue. Donc c'est une des caractéristiques de ces paysages de Bordeaux, où on a un paysage de rue très minéral que la ville aujourd'hui cherche à replanter un petit peu sur les délaissés. On met 3-4 arbres, souvent des trucs comme ça. Mais les jardins sont là. Les jardins sont là et je ne pense pas qu'il soit nécessaire que les plantations soient visibles et accessibles à tous dans une ville. Et que ça fait partie du confort de vie à Bordeaux, ce type d'habitat que tout le monde apprécie et qui n'a jamais été boudé par les Bordelais, malgré tout ce qu'on a pu en dire dans les années 50, puisque ces maisons étaient vilipendées dans les années 50. Elles étaient malsaines, elles avaient des pièces noires, des vérandas qui n'étaient pas hygiéniques, etc. Mais les habitants les ont toujours habitées, et ces quartiers se gentrifient à toute vitesse depuis les années 80 à peu près, hein, par le renouvellement des populations, donc sans qu'il y ait de politique particulière. Et puis, cette gentrification se confirme par la patrimonialisation de ces sites, hein, qui font l'objet d'un PLU patrimonial, donc un plan d'urbanisme à caractère patrimonial, qui peut être discutable sur certains points de vue, et puis qui sont intégrés dans le patrimoine mondial. Donc
vous en parliez justement sans prononcer le mot, mais une des raisons aussi de cette densité verte à Bordeaux, c'est l'existence des échoppes, qui est une maison spécifiquement bordelaise où effectivement chaque échoppe a son petit jardinet. Ça, c'est quelque chose de vraiment très bordelais qu'on ne retrouve pas dans d'autres villes, enfin pas forcément sous ce nom, mais sous cette forme de petites maisons individuelles.
C'est compliqué de savoir quelles peuvent être les parentés en fait de l'échoppe avec d'autres maisons de ville ailleurs, parce qu'il y a très peu d'études. Moi, j'avais fait une étude assez approfondie sur la question. Alors, d'abord, c'est la maison à étage qui est apparue la première, et l'échoppe a emprunté à la maison à étage son rez-de-chaussée. Donc c'est déjà l'échoppe qui est arrivée en deuxième, alors que la maison avec un étage était une maison populaire dès la fin du XVIIIe siècle. Elle apparaît apparemment autour du jardin public. Et l'échoppe, alors elle a des caractéristiques locales, qui sont notamment l'articulation de la cuisine et de la salle à manger avec le jardin par l'intermédiaire d'une véranda, et qui sont aussi la présence d'une pièce noire qu'on retrouve dans des maisons bruxelloises, par exemple. Donc la pièce noire, c'est une caractéristique de la maison bordelaise, mais on peut la retrouver ailleurs. Mais cette articulation avec le jardin, qui est très particulière, semble-t-il, est locale, en tout cas, d'après les données que j'ai aujourd'hui, elle est apparemment très spécifique, et elle disparaît dans les années 30, hein, puisque l'entre-deux-guerres, c'est la période de l'évolution de l'architecture, où les caractères locaux s'éloignent pour une architecture beaucoup plus nationale, internationale, voire même. Et donc la maison, là, bordelaise, perd de ses attributs locaux. Et elle devient une maison qui est interprétée toujours en pierre à Bordeaux, mais qu'on peut retrouver à Rennes, à Périgueux, à d'autres endroits, à Brest. Les maisons type Parc de l'Escure, par exemple, pour vous situer, on les retrouve sous une autre forme architecturale, mais avec les mêmes types d'espaces et l'organisation à l'intérieur ailleurs.
D'accord. Alors, ce qui n'était pas prévu, mais enfin bon, ça, vous avez prononcé le mot tout à l'heure, on est dans un autre sujet, encore que ça fasse partie de la fabrication de la ville, c'est l'apparition de la voiture, de plusieurs voitures par foyer qui posent d'énormes problèmes de stationnement. Bon, c'est un autre problème, enfin, ça appartient aussi quand même à la problématique de la fabrication de la ville, c'est-à-dire que... Effectivement, la ville n'est plus la même à partir du moment où dans chaque famille, on arrive à deux, voire trois voitures par foyer, et que maintenant, ces quartiers d'échoppe, pour la plupart du temps, les trottoirs sont envahis de voitures.
Oui, il y a des démarches aujourd'hui qui viennent des habitants, souvent, pour réduire la place de la voiture dans ces rues, la rue Kléber qui va devenir une rue plantée, il y a la rue Calix Camel sur la rive droite. Alors, la voiture
Paul
est
Camel.
Toujours là.
Paul Camel,
pardon, ouais, pas Calix Camel. Et je pense qu'on devrait plutôt exploiter les pratiques des habitants parce qu'ils habitent des maisons sans garage et qu'ils ont pris l'habitude de garer leur voiture souvent dans des anciens entrepôts, des anciennes petites usines, dans les quartiers, donc loin de leur maison. Donc je pense qu'on pourrait exploiter ça. Donc en fait, ils ont des attitudes écologiques de ce point de vue-là. Et en plus, on n'a pas de garage, donc pas de volume froid dans le volume de la maison. Donc on a des maisons qui pourraient être plus performantes que ce qu'on a aujourd'hui. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir à exploiter ces pratiques et garer la voiture ailleurs que dans la maison. D'accord. Plus loin, dans des silos à voiture, etc.
Après, je crois que le 3 voitures par foyer ne doit pas trop toucher les Bordelais. Non. Bordelais. C'est plutôt en grande périphérie qu'on arrive à cet eau-là. On s'en rend bien compte, puisque de toute façon, si on a 3 voitures, 1, on ne peut pas les garer, 2, on ne peut pas circuler avec. Donc assez vite, on devient raisonnable.
Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire, puisqu'on parle de fabrication de la ville, que la fabrication de la ville est intimement liée aussi justement au déplacement ? Bon, à un moment, vous en parliez, dans les années 70, c'était la fameuse déclaration de Pompidou, c'est pas la voiture à s'adapter à la ville, c'est la ville à s'adapter à la voiture, ce qui a donné lieu parfois à des plans urbains. Vous les montrez, je crois, dans le livre, il y a eu des propositions parfois, si ça avait été accepté sur les quais, qui seraient aujourd'hui des espèces d'autoroutes à plus de 15 voies, je crois, 15 ou 16 voies pour certains passages. Et que finalement, c'est ensuite, dans les années 2000, fin des années 90-2000, où c'est par rapport au tramway, évidemment, les transports collectifs, que la ville s'est modifiée. Donc il y a eu une nouvelle fabrication de la ville. Est-ce que c'est intimement lié, ça, justement, là ?
Quand on regarde un peu l'histoire, c'est quand même hallucinant de voir qu'en 1957, je crois, on a fêté le dernier tramway à Bordeaux avec fanfare.
58.
58, oui. Fanfare, drapeau, etc. Et que au même moment, on mettait les batteries d'autobus diesel en exposition sur la place des Quinconces, et que la modernité, elle apparaissait là. Alors aujourd'hui, on est dans une autre modernité, qui est celle effectivement du transport en commun, d'essayer de développer des transports qu'on dit doux, hein, le vélo, les V-cubes, etc. Qu'est-ce qu'on inventera dans l'avenir ? Moi, je suis toujours très, très prudent là-dessus. Hein. J'ai travaillé pendant quelques temps au ministère de l'Équipement. J'avais un directeur qui voulait installer un funiculaire dans Bordeaux. Pourquoi pas ? Hein, on y a échappé aussi, ça. Mais
un funiculaire pour aller d'où à où ?
Déjà pour traverser la Garonne, sans avoir à faire de pont. Donc, c'était une possibilité. Mais c'est vrai que... Il faut toujours... Moi, je crois qu'il faut qu'on soit prudent, hein, surtout quand on prédit quelque chose. Quoi.
Oui. Marc Saboya, vous voulez...
Oui, je voudrais seulement faire une petite remarque. Adapter la voiture à la ville ou la ville à la voiture, tout cela, c'est du passé. Eh bien, je dis non. Il y a à peine 10 ans, quand même, la ville a ouvert, pratiquement en plein cœur de Bordeaux, l'avenue Georges Pompidou, en ravageant un quartier entier pour laisser passer... sur l'espace de à peu près un kilomètre, une autoroute urbaine qui aboutit à une place absolument hideuse, qui était en fait une place avant où jouaient des boulistes autour de quelques platanes, et qui maintenant est un rond-point autour d'une maison vide au pied desquelles habitent quelques clochards qui ne peuvent pas y pénétrer. C'est la maison de Kabakov. Alors on ne peut pas, quand même, hein, devant ce genre d'absurdité, de honte... On ne peut pas quand même dire qu'on a réglé ce problème encore de la voiture. Voilà.
Là, c'est vraiment le contre-exemple, effectivement. On est tout à fait en accord avec Marc sur la déception, voire la colère devant ce ratage par rapport à d'autres grandes réussites de réaménagement de l'espace public. Mais pour revenir à cette question-là, je pense que justement, comme on ne peut pas prédire l'avenir, on ne sait pas quelles seront les tendances de la période... des périodes suivantes, je pense que c'est important d'avoir une ville que David Mangin qualifie de passante. C'est-à-dire que quand on a un réseau viaire, un réseau d'espace public qui est continu, ce qui était un des objectifs principaux depuis le Moyen-Âge jusqu'aux édiles du XIXe siècle, on peut voir la ville évoluer, se transformer, accepter des fonctions mixtes, mélanger l'habitat et le travail, du moment que tout le monde peut circuler, peut bouger, qu'on peut mettre en lien les choses, les gens et les marchandises. Et qu'aujourd'hui, avec des ingrédients qu'on avait au XIXe siècle, une maison individuelle, des bâtisseurs qui sont maintenant des constructeurs, des spéculateurs fonciers, on fait des lotissements de maisons individuelles dans les banlieues qui sont en boucle, en impasse, et qui sont absolument difficiles à faire évoluer par leurs règles, mais aussi par leur forme. Hein, donc avec les mêmes ingrédients, les mêmes acteurs quasiment, les mêmes types d'habitats, on arrive à deux formes urbaines totalement différentes, une très évolutive, l'autre pas du tout. Donc qui bloque l'avenir en quelque sorte. C'est une des questions qui intéresse beaucoup les urbanistes aujourd'hui, de savoir comment faire évoluer ces zones pavillonnaires.
Oui. Alors, pour en revenir à Bordeaux, ce qui est intéressant, et alors vous êtes évidemment enfin, très bien placé pour en juger, pour en parler, puisque bon, vous connaissez l'histoire de Bordeaux depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Ce qu'on peut constater, c'est que parfois, la ville, vous dites, elle évolue, mais elle se répète aussi parfois. Parce que quand on regarde des images anciennes de Bordeaux, j'ai revu il n'y a pas longtemps des images du cours de l'intendance, du cours du chapeau rouge. Finalement, on s'aperçoit que ce qui a été recréé, ça revient un peu à ces vastes esplanades plutôt réservées justement aux piétons ou aux transports collectifs. À l'époque, c'était les calèches à cheval. Oui. Maintenant, c'est le tramway. Et également, on peut voir aussi les répétitions. C'est que j'ai découvert, on parlait du colloque là, sur les 50 ans de la loi Malraux, et que finalement, quand Jean-Michel Pérignon a parlé du passé, que le tramway à alimentation par le sol avait déjà existé par le passé. Oui, quoi, oui. Qu'on a présenté ça comme une innovation technique par rapport à aujourd'hui, mais qu'en fait l'alimentation par le sol est quelque chose qui avait déjà existé.
Au 19e siècle.
Oui.
Donc elle était plus dangereuse qu'aujourd'hui.
Oui, j'imagine. Mais donc c'est ça, c'est aussi que la ville, c'est une sorte l'urbanisme parfois se. J'allais dire qu'on n'invente rien. Si, peut-être, mais que on peut se répéter aussi.
On n'échappe pas aux courants de pensée, effectivement, qui peuvent être récurrents. Et je pense que c'est dans toutes les disciplines pareil. On a des courants de pensée qui peuvent revenir, d'autres qui sont abandonnés pendant des siècles. Et puis des idées qui reviennent. La passerelle aussi en bois au-dessus de la Garonne, elle avait déjà été faite une ou deux fois.
Pas
d'autres,
au-dessus de la Garonne.
Non, pas au-dessus de la Garonne, enfin sur les quais, quais de la Garonne. Ouais. Elle avait, au droit des Quinconces, elle avait déjà été faite, alors que peu de gens le savaient, en fait. Mm-hmm. C'était pas une idée nouvelle.
Idem pour le miroir d'eau, c'est vrai que j'ai vexé un jour Michel Courajoux en lui disant qu'il y avait eu un projet de miroir d'eau qui existait déjà, et il a pensé que je le traitais de plagiat. Il m'a dit, je vous jure que je ne le connaissais pas, ce projet. Je lui ai dit, mais c'est pas une accusation, mais c'est vrai qu'il y avait déjà eu un miroir d'eau qui était face à la bourse. Quoi, qui était...
Mais quand on est un créateur, on a toujours peur de s'inscrire dans les pas de quelqu'un d'autre, ouais. Alors que finalement, ça n'a rien de honteux. Si
D'accord. Alors... Un des aspects de Bordeaux, on parlait de l'eau, de l'importance de l'eau, c'est aussi les franchissements. Est-ce que c'est quand même une ville qui a beaucoup souffert de son absence de franchissement? Justement, vous disiez que l'autre rive, ça paraissait le bout du monde, quoi. C'était...
Oui, et j'ai encore entendu, il y a moins de 15 jours, dans le tram, une dame dire à sa fille, on va de l'autre côté de l'eau. Ça se dit encore, c'est pas complètement sorti de l'imaginaire ni de la pratique bordelaise. Alors c'est vrai que la difficulté qu'on a eue longtemps à traverser le fleuve s'inscrit dans l'histoire de la ville, mais s'explique aussi par son la nécessité économique de faire accéder les bateaux. On a bien vu ce qui s'est passé lorsque le pont de pierre a été mis en œuvre. Tous les chantiers navals qui étaient en amont du pont sont morts ou se sont déplacés et sont venus s'installer en aval du pont et notamment sur la rive droite. Et ont participé justement à l'industrialisation de la rive droite. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans les mêmes configuration, et que l'idée d'un nouveau pont que je continue à appeler Baba, moi, pour l'instant. Hein, donc le pont Baba, il me semble pas malvenu dans la circulation. Il va falloir qu'on s'habitue un petit peu à sa silhouette dans l'horizon bordelais. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est l'autre. Celui tout le monde a toujours été d'accord pour le pont Jean-Jacques Bosc. Oui. En 1929, on disait, bah oui, il faut faire ce pont-là, etc. À chaque fois, tous les plans disaient, oui, le pont Jean-Jacques Bosc, il est nécessaire, il n'y a aucune discussion. C'est le seul qu'on n'a pas fait encore, c'est quand même assez étrange. On a quelque chose de bizarre hein, dans notre mode de raisonnement parfois à Bordeaux. Alors peut-être qu'il va se faire, là, j'ai pas lu les derniers comptes rendus de la CUB.
Dernière nouvelle, il se fait, mais enfin...
Voilà.
Bon, ouais. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est, vous voyez, sur la fabrication de la ville. Alors là, pareil, moi, j'ai pas forcément de point de comparaison avec d'autres villes. Peut-être que si on se penchait sur la fabrication de la ville dans d'autres métropoles, on découvrirait les mêmes choses. Mais on a l'impression qu'à Bordeaux, pour que les projets émergent, il faut quand même beaucoup de temps. Parce que le projet de pont que vous continuez d'appeler Bacalan-Bassis, c'est d'abord appelé Lucien Faure, et puis qui, officiellement, je vous le rappelle, s'appelle Jacques Chaban-Delmas. C'est un projet aussi dont on parlait depuis les années 80, fin des années 70, début des années 80. C'était à l'époque les communistes qui militaient pour un tunnel à cet endroit-là. Donc voilà, c'est vrai que c'est... Et le quartier de la Bastide a mis très longtemps aussi à sortir. On pourrait parler de Mériadec également. On a l'impression quand même qu'à Bordeaux, alors peut-être... Marc Saboya pourrait nous parler du temps. À Bordeaux, on a l'impression que le temps prend son temps, justement, non ?
Je ne sais pas si c'est un trait typique de Bordeaux, mais enfin, c'est vrai que ça existe.
Ouais.
C'est vrai que ça existe. Ça pourrait remonter, et avec Robert, on pourrait vous en parler, tout simplement à l'histoire de la place des Quinconces, qui est déjà une entreprise sur 30-40 ans absolument considérable, et qui a duré... Avec des concours, avec un château qu'il fallait démolir, on ne savait pas quoi faire des pierres, ensuite quoi installer dessus, ensuite quel cadre donner. Voilà, ça a duré, je dirais, presque un demi-siècle. Mériadec en est un autre exemple, qu'ils ont très bien analysé dans le bouquin. C'est vrai que ça commence quand même, Mériadec, en 1951. Et ça se termine maintenant. Je veux dire, il y a encore une ou deux dents creuses, même plus. Mais ça y est. Et maintenant, on ne sait pas quoi en faire pour arriver à la rattacher à la ville. Quoi. Voilà.
Ouais,
mais c'est vrai que c'est encore plus d'un demi-siècle.
Ouais. Voilà. Mais alors pourquoi ? C'est quoi ? C'est un trait spécifiquement bordelais
Moi, je ne pense pas. Le temps, comme le dit Marc, le temps de la ville, c'est quand même un temps long. C'est un temps qui mérite d'ailleurs un peu parfois de longueur, un peu de réflexion. Peut-être que si on avait construit le pont transbordeur au droit du cours du Médoc, aujourd'hui on serait un petit peu embêté de qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là. Quoi, parce que le pont transbordeur, c'est sympa quand on va à Rochefort pour le tourisme, mais en termes d'efficacité, c'est pas extraordinaire. Donc je crois que l'idée de prendre du temps pour l'urbanisme, c'est pas contradictoire. La ville de Bordeaux, elle s'est pas construite rapidement. La plupart des villes se mettent du temps à se construire. Lorsque j'étais il y a quelques jours à Nancy, les architectes me disent « Nancy, c'est une ville neuve, elle ne date que du XIe siècle ». C'est une ville neuve parce qu'elle ne date que du XIe siècle. Donc, effectivement, le temps pour la ville, c'est quelque chose... C'est un facteur qu'on doit, effectivement, intégrer. C'est ce qui fait peut-être, d'ailleurs, pas mal la différence entre le projet architectural et le projet urbain. On a là des temps qui sont très différents entre les deux. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Chantal sur le fait qu'effectivement, l'architecture, elle peut changer relativement rapidement. La ville, elle reste... Elle prend plus de temps. Et aujourd'hui, c'est vrai que le développement aussi des processus démocratiques font que ça prend encore un peu plus de temps. Et on ne va pas s'offusquer que la population soit intégrée aux réflexions sur la ville. Finalement, c'est quand même la moindre des choses.
Puis on le perçoit aujourd'hui parce qu'on le vit, mais je pense que même quand on dit Tourny, en 15 ans, a fait des travaux énormes. En fait, il a lancé des travaux énormes. Il a lancé un projet, plusieurs projets qui pouvaient justement se bâtir sur la durée. Donc il avait intégré la temporalité de ce projet qui s'est construit finalement en énormément plus de temps que les 15 ans pendant lesquels il a régné, sachant qu'en plus, il avait quand même un pouvoir, le soutien du pouvoir royal qui lui permettait d'imposer des choses à la ville, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui.
Alors, est-ce que dans la fabrication de la ville de Bordeaux, qui est donc, encore une fois, le thème de votre premier ouvrage, Est-ce que la chance de Bordeaux, je ne sais pas, enfin, j'emploie le mot de chance, peut-être vous me corrigerez, c'est aussi d'être une ville qui dispose d'un foncier extrêmement vaste. On continue encore, la ville de continue de s'étendre sur d'autres quartiers au nord, au sud, bon, bassin à flot, le lac, Euratlantique. Est-ce que c'est une chance aussi pour une ville de disposer d'un tel foncier?
Alors c'est une chance et une malchance, parce qu'on s'installe sur quoi? Ben sur la perte d'un certain nombre d'activités, notamment d'activités économiques. Donc effectivement, aujourd'hui, les zones de reconquête, ben c'est aussi des zones de déprise de l'industrie et de l'activité pour beaucoup d'entre elles. Cela étant, effectivement, avoir sur la ville-centre d'une agglomération comme la nôtre ce potentiel foncier, c'est effectivement quand même une chance. Ça nous évite de projeter nos extensions à 20, 30, 40 kilomètres, voire plus loin encore, à condition que le foncier reste et que les produits qui sont les choses, genre, je trouve ça horrible ce terme de produits quand on parle de logement. À chaque fois, ça me fait un choc. Que les produits que les promoteurs proposent soient accessibles à tous. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais sans ça, effectivement, pouvoir bénéficier du foncier, des bassins à flot, d'Euratlantique, des multiples projets sur la Bastide, c'est vrai que c'est une chance. Et on le voit d'ailleurs au travers des projets. Alors, il y en a certains... Je ne suis pas forcément persuadé de leur qualité parmi ceux qui ont été retenus récemment. Mais malgré tout, c'est une chance quand même d'avoir tous ces lieux d'expérimentation et de projets sur la ville.
Vous parliez d'éco-quartier tout à l'heure. Est-ce que vous diriez que le quartier Ginko, le quartier donc qui se construit sur les bords du lac, est arrangé parmi les éco-quartiers? La question très polémique, hein, mais bon.
Bah, écoutez, c'est son objectif. Après, c'est son nom. Est-ce que c'est juste du greenwashing, comme on dit, ou si c'est ou autre chose? Je ne me suis pas penchée sérieusement sur la question. Donc, je ne voudrais pas faire une critique d'humeur comme ça. Pour l'instant, j'en sais rien. Hein, je demande à voir d'un peu plus près. J'ai été. Il y a une chose qui est très visible aujourd'hui, c'est que cet éco-quartier se sépare avec une douve du reste de la ville qui est à côté, les Aubiers et le quartier de Bordeaux-Lac. Alors ça, pour moi, c'est pas une ville durable. Hein, si on tisse pas une ville continue, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est un critère rédhibitoire. Soit on fait la ville qui dure, donc la ville qui est en lien avec le reste. Et là, cette douve, on se demande pourquoi il n'y a pas de rempart en plus, pour séparer ce quartier du reste où on entre à deux endroits. Après, sur l'intérieur du quartier, je pense qu'il y aura peut-être des beaux espaces publics. Moi, je regrette que la mode, mais qui date de très longtemps et qui est vraiment ancrée dans l'esprit des architectes notamment, c'est de voir tout de partout. Donc moi, je pense que c'est bien d'avoir des endroits secrets dans une ville, des jardins qui sont réservés à quelques-uns et qu'on n'est pas obligé d'inviter tous les publics à rentrer partout dans la ville. Donc c'est ce qui me gêne un peu dans les projets aujourd'hui, pas seulement à Ginko, hein, c'est que tout est transparent, tout doit être transparent. Alors en plus, on ne sait pas comment on va gérer tout ça parce que tous ces espaces qui sont souvent entretenus par les villes, ça va être ingérable. Ou entretenus par des copropriétés avec les phénomènes de défiscalisation, on va arriver à des copropriétés dégradées dans 30 ans, parce que maintenant, ça va être très joli. Dans 30 ans, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc je me pose ce genre de questions.
Après, sur le caractère écologique, il faut, je crois, là encore, prendre un peu de temps. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que la ville ait eu le temps de vivre, que le quartier de Ginko ait eu le temps de vivre, de s'installer, qu'on ait eu le temps de faire des évaluations. C'est ce qui manque souvent beaucoup hein, en France. On fait des trucs, on dit que c'est, et puis on n'évalue pas. Donc, ben, c'est pas compliqué de savoir si véritablement les cibles, par exemple, des énergétiques, si elles sont atteintes ou pas, de savoir si les productions de chaleur sont efficaces ou pas, de savoir comment on traite l'eau, etc. Mais il y a assez peu d'évaluation, en fait. C'est une habitude qu'on n'a pas encore prise en France d'évaluer ce genre de quartier. Ça mériterait de l'être. Alors, je ne sais pas si c'est prévu dans le protocole Ginko. Après, ben, pour le reste, prudence. Comme,
bon, ça sera pour la réédition de votre livre. Vous voilà. Intégrerez voilà, le cartégien.
Vous avez tout deviné.
Ouais, bon. Juste,
il y est, mais... comme ça.
Oui, bah, oui, il était pas terminé. Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est parfois vous montrez ce qu'on pourrait appeler des utopies architecturales, des projets qui auraient pu avoir lieu. Alors, notamment avec Cyprien Alfred Duprat, il y a un livre qui est paru chez un concurrent de Geste Édition.
Très beau texte de Marc.
Voilà, absolument. Donc, c'est chez Confluence. Donc, c'est vrai que c'est on se dit qu'il y a eu des projets. Alors, je ne sais pas s'il faut se regretter qu'il n'ait pas eu lieu, parce que certains, c'était quand même parfois délirant. Et je ne sais pas comment ça aurait vieilli. Mais Bordeaux est une ville aussi, on a l'impression qu'il a fabriqué, pour rester dans le terme, a fabriqué une école d'architecture. Alors, vous êtes bien placé pour en parler, quand même, qui est assez intéressante, quand même, sur ce plan, non
du
l'architecture
du bâtiment,
bordelaise, quand même, par rapport...
Je te laisse parler de Ferret.
Oui, non, mais le terme école d'architecture, je ne veux pas l'entendre comme un groupe d'architectes qui s'entendent entre eux et qui ont... On a effectivement eu des petites écoles, en quelque sorte, hein, autour, par exemple, du groupe Salier-Courtois, qui ont effectivement eu une influence sur un certain nombre de leurs confrères et qui ont une production qu'on arrive à identifier, à reconnaître, mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu véritablement une école bordelaise. Après, que... dans une ville où il y a des projets, il y a des projets utopiques, c'est aussi intéressant, c'est un ferment aussi pour tous les architectes. Vous évoquez Cyprien Alfred Duprat, je ne vais pas trop en parler devant Marc parce qu'il connaît beaucoup mieux le sujet que moi, mais c'est vrai qu'on voit dans certains projets de Cyprien Alfred Duprat des choses qu'on va retrouver. Quand il faisait son projet sur le Grand Bordeaux, il prévoyait un lac à peu près là où il y a notre lac de Bordeaux. Hein, c'est marrant parce que, ben non, c'est pas marrant, c'est pas le hasard, c'est que la géographie, là encore, qui dicte une certaine logique d'inscription des choses. Alors, on a eu la chance de ne pas avoir, par exemple, les trottoirs au premier étage du cours de l'intendance. Oui. Ça, je pense que ça aurait été un petit peu plus dur à vivre. Mais après, il y a effectivement, une certaine envie de réfléchir qu'ont eu certains architectes, mais je pense que c'est plus certains architectes, et notamment Cyprien Alfred Duprat, je crois, est vraiment un cas un peu exceptionnel, parce que sans ça, en même temps, on construisait quand même la bourse maritime devant les entrepôts Lainé, qui ne sont pas un exemple de modernité, quand même.
Oui.
On était capable aussi de faire ça à peu près en même temps, un peu après même que Cyprien Alfred Duprat, et montrer qu'on pouvait faire autre chose.
Mais les projets utopiques, c'est toujours intéressant parce que ça porte toujours une idée qui va évoluer plus tard sous une autre forme. Par exemple, l'idée d'avoir un boulevard, elle naît déjà à la fin du XVIIIe siècle avec le dernier intendant important qui imaginait une ceinture avec un canal. Puis après, cette idée de ceinture est réapparue dans les plans de Pierre Hugues. Et puis finalement, on le met en place, ces boulevards, à un autre endroit, plus loin, à partir du milieu du 19e siècle. Puis, par exemple, je sais pas, il y a une idée qui est assez amusante, c'est la ville superposée à plusieurs étages. Léonard de Vinci a fait des dessins où il y a des villes qui s'organisent sous plusieurs niveaux, avec un niveau bas pour les services, un niveau intermédiaire pour les pauvres, et puis un niveau noble. Donc finalement, la ville a plusieurs étages avec des fonctions différentes et même une partition de la société. Bah, ça existait avant l'urbanisme sur dalle qu'on a mis en place dans les années 70.
Okay.
C'est amusant de voir ces idées comme ça qui prennent des formes différentes, qui se traduisent différemment, mais qui sont finalement, dans le principe, les mêmes.
Oui, c'est-à-dire que le problème de l'utopie, c'est quand même aussi un genre littéraire et un genre donc de fiction, qui d'une part part de l'idée qu'on constitue un monde nouveau, où on va vivre mieux, mais dans cette idée... est sous-entendu que ce monde sera aussi totalement isolé du monde dans lequel on est. C'est-à-dire qu'il y a une rupture entre le monde réel et le monde rêvé. Et cette rupture, l'architecture, parfois l'accentue dans des projets. Nous avons lancé avec Robert en 2003, quand on a sorti le livre sur Bordeaux 20e siècle chez Mola, un livre qu'on aimerait voir souvent sur les tables de l'éditeur, mais qui est rarement exposé, c'est dommage. Je fais un appel ici à l'éditeur directement.
C'est le lieu pour ça.
On avait lancé cette idée de Mériadec, quartier utopique. Depuis, tout le monde la reprend, hein, sans véritablement analyser le fond même de cette utopie, qui consistait effectivement à imaginer un quartier où l'on vit bien, où l'on vit moderne, mais aussi un quartier qui soit séparé de la ville ancienne, séparé de l'histoire. Voilà. Et là se crée une utopie, et là se créent vraiment les problèmes réels.
Bien, bah écoutez, donc ceux qui veulent venir rencontrer les deux auteurs, merci pour eux, merci pour votre venue, et puis encore bravo à cet ouvrage et à l'éditeur et à ces deux auteurs. Et au préfacier Marc Saboya.